une grave erreur. Il y a un verset, il y a des versets, il y en a un dans les Proverbes qui dit que, par exemple, celui qui ne vit pas selon la parole, sa prière est une abomination. La prière ne suffit pas, c'est d'abord la parole et la prière ensuite, bien sûr. Donc, la parole écrite, la Bible, hein, ça c'est clair, vous l'avez compris, et c'est 1 Jean 2, on peut le placer, non, pas encore, on peut le placer ici, ah, je suis coincé avec ça, merci de m'aider, voilà, l'onction, vous voyez, l'onction c'est en rapport avec l'esprit, et dans 1 Jean 2, vous avez ces versets qui disent que n'importe quel chrétien qui lit la Bible, son onction nous enseigne. 1 Jean 2, verset 20 et verset 27. Merci. Son onction nous enseigne. Ce n'est pas seulement pour un ministère, c'est pour tous les chrétiens. Et vous pouvez placer à ce niveau-là. La parole écrite. On a presque fini ce plan de vie, mais il faut encore avancer un petit peu. Eh bien, ensuite, il y a... Alors, je dirais que parole vivante, parole écrite, parole révélée, vous voyez ces trois domaines, vivante, écrite, révélée, voilà. Ça, c'est la communion avec Dieu. Ça, c'est la communion divine. Et maintenant, il y a la communion fraternelle. Ça, c'est la communion verticale, mais il y a aussi la communion horizontale qui doit exister toute notre vie, qui est nécessaire, qui est indispensable même. C'est tellement merveilleux quand on peut avoir cette communion. Il y en a qui ne l'ont pas, parce qu'ils sont en prison, ou pour d'autres, ils se retrouvent dans d'autres situations. Ma maman n'a pas eu cette communion, moi non plus, pendant des années, parce que la ville où on habitait, je le répète, il n'y a toujours pas d'église aujourd'hui. Et on se retrouvait seul. Et ma maman, elle est de nouveau en 1971, et elle a connu l'église locale en 2000. Mais elle a toujours tenu debout. Pourquoi ? Eh bien, à cause de sa communion avec Dieu. À cause de sa communion avec Dieu. J'insiste sur ce point. Elle a 86 ans, elle a lu 85 ou 86 fois la Bible en entier. C'est le secret. C'est le merveilleux secret. Et donc, l'Église, oui, c'est ça. C'est l'Église locale, Lévitique 19. Vous connaissez Lévitique 19, 23, c'est un très beau passage que nous allons regarder, parce que souvent quand on parle de l'église locale, on ne va pas chercher dans Lévitique. Hein. Alors on va prendre un verset un peu spécial. « Quand vous serez entrés dans le pays et que vous y aurez planté toutes sortes d'arbres fruitiers. » Voilà, quand on est de nouveau, on entre dans le pays. On entre. Et des arbres fruitiers, bien sûr, ça c'est en rapport avec ce qu'on a dit tout à l'heure. Nous sommes des arbres, je vous le disais, hein, nous sommes l'image de l'arbre, on la voit ici. Alors, communion fraternelle, qu'est-ce que nous avons encore là? Communion fraternelle, on a besoin, acte 2, 42, ils persévéraient dans la communion fraternelle. Ils persévéraient dans la fraction du pain, ils persévéraient dans les prières, on a parlé de la prière. Et persévérer dans l'enseignement des apôtres, on a parlé de la parole. Alors, communion fraternelle, on a besoin. C'est écrit, Genèse 2, 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pas bon qu'on soit tout seul, on a besoin d'être ensemble. Beaucoup de chrétiens ne comprennent plus ça aujourd'hui. Et ils vivent seuls chez eux, déçus des églises, parce qu'ils cherchent une église parfaite. Ils n'en trouveront jamais. Ça n'existe pas une église parfaite. Il n'y a que Christ qui est parfait, mais Christ qui est parfait est invisible. Alors, Dieu nous a donné des ministères imparfaits, mais visibles. Et il vaut mieux quand même fonctionner avec ce qui est parfait, ce qui est imparfait, parce que c'est quand même visible. On ne peut pas fonctionner avec l'invisible, seulement avec l'invisible. Rappelez-vous, le peuple d'Israël, Moïse est allé sur le mont Sinaï, et ils disent à Aaron, construis-nous un veau. Et il demande qu'il s'appelle l'Éternel, ce veau. Parce que Moïse n'est plus là, le visible n'est plus là. L'être humain a toujours besoin de quelque chose de visible. Dieu le savait. Et c'est pour ça qu'il a donné des ministères dans l'Église. Communion fraternelle, qu'est-ce que nous avons encore après? Voilà. Et ça c'est aussi très important, apprendre à travailler en équipe. Vous voyez là, le trait, il est en rapport avec le plan de Dieu. Donc le service, on apprend à travailler les uns avec les autres. On apprend à ne plus rester seul. On apprend, j'étais tout à l'heure dans Lévitique 19, regardez le verset 24 maintenant. La quatrième année, tous les fruits seront consacrés à l'Éternel au milieu des réjouissances. Vous voyez, ensemble, on va commencer à voir, on va voir les fruits. Les fruits, c'est en rapport avec le service. Je vous en parlerai un petit peu plus. Quand est-ce que je dois m'arrêter, Christian? Ah ben je ne sais pas, moi je peux vous garder le temps que vous voulez, on mange ensemble. Hein. Donc vous êtes coincé, je crois, c'est ça? Non. En 20 minutes, ça va encore? Allez, 20 minutes. C'est bien, je ne serai pas très long comme ça. 20 minutes sûr, hein? Bien, alors, nous parlons du travail en équipe. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore ici? Il y a quelque chose d'écrit, non? Ah, il n'y a rien d'écrit. Ben, après le trait, vous pouvez mettre le travail dans l'église locale, parce que là, le service est reconnu, et c'est le travail dans l'église locale et dans les églises. Dans les églises, si votre service doit aller jusqu'à l'extérieur. Hein. Je relis les versets à partir du Lévitique 19. Peut-être que ce n'est pas très clair ce que j'ai dit, alors je vais quand même le lire ici, ou peut-être on reviendra tout à l'heure sur le dernier schéma. Mais pour l'instant, on lit simplement 25. La cinquième année, vous en mangerez les fruits et vous continuerez à les récolter. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous voyez, la cinquième année, on est passé déjà par le plan qui est là, l'étape du plan. Et là, eh bien, on va manger les fruits et puis on va continuer à les récolter, les fruits. Il n'est pas écrit, vous les mangez au milieu des autres. Non, là maintenant il n'y a plus besoin, le ministère est éprouvé, il est reconnu. Vous allez manger les fruits et vous allez continuer à les récolter. Gloire à Dieu. Il reste encore quelque chose que nous pouvons noter. La nouvelle naissance, c'est la justification, c'est en rapport avec le salut de notre esprit. Puis, là, il y a le travail de l'âme, je vous renvoie à la première ligne en haut, travail de sanctification. Puis, donc c'est en rapport avec la consécration. Je vous rappelle que le mot consécration, en hébreu, il vient de la même racine que le mot sanctification. C'est pour ça que la consécration, c'est aussi en rapport avec la vie personnelle. Et puis, ensuite, il y a la vocation, on la retrouve, c'est au même niveau. Puis, il y a la révélation, c'est souvent en rapport avec la connaissance, le fait. Et enfin, nous arrivons à la glorification. Et là, ce n'est plus l'esprit, ce n'est plus l'âme, mais c'est le corps. C'est en rapport avec le corps. Attends, Martine, parce qu'il y a encore un. Donc, tu n'auras pas tout, sinon. Donc, le corps. Et nous terminons avec la dernière ligne. Où est la dernière ligne? Oui, très bien. Alors la dernière ligne, eh bien, lorsque nous sommes nés de nouveau, nous sommes devenus enfants de Dieu. Enfants de Dieu. J'avais vu là, ce qu'on veut de la ligne, j'ai mis un petit peu à d'autres endroits. Hein. Dans 1 Jean 2, vous connaissez les versets 12 à 14. 1 Jean 2, versets 12 à 14, on est d'abord enfant, on devient jeune Jean, puis on devient père. Et les enfants, ils ont connu le Père. Ça, c'est le premier point. Et puis, alors les enfants, on les appelle bibliquement des croyants. Vous voyez le mot croyant là, des quelque part? Non. Alors on y va, voilà. Bon, il est quelque part. Puis on devient des jeunes gens, puis on devient des pères, parce qu'on grandit avec le Père, avec la connaissance du Père, c'est très clair. Alors, quand on devient jeune gens, vous voyez, il y a quelque chose d'autre d'écrit.
Croyant tout en haut.
Oui, alors croyant, et puis maintenant, voilà, les jeunes gens deviennent disciples. Un croyant doit devenir un disciple. Ou si vous préférez, un enfant doit devenir un disciple. Et puis, pour terminer, le disciple doit devenir un disciple accompli. Ou si vous préférez, ce mot que vous trouvez qu'une seule fois dans le Nouveau Testament, un vainqueur doit devenir un plus que vainqueur. C'est ça que nous montre la parole. Alors là, vous avez en résumé, si vous voulez, tout le cheminement, tout le plan de vie d'un chrétien. Voilà ce que nous sommes appelés à vivre dans notre vie chrétienne, dans les grandes lignes, bien sûr. Et là, on sera prêt. Là, oui, on peut parler d'une pleine restauration. Vous comprenez ? Vous vous rappelez des temps de restauration. C'est pour ça que quand on a appris quelque chose avec le Seigneur, quand on est passé par une étape, ben, il ne faut pas l'oublier. Il faut la garder. Rappelez-vous le jardin d'Éden, on en a parlé hier, le cœur. Il faut cultiver et garder. Si on ne cultive pas, ça tombe en friche. Et alors on perd. Non, gardons. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Et c'est comme ça qu'on va avancer dans la vie chrétienne jusqu'au moment où on sera prêt à aller avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Oui, alors, un dernier schéma, je m'arrêterai là. Encore un petit quart d'heure, hein. Je m'arrêterai là. Le service, je voudrais vous montrer les 5 étapes clés pour servir le Seigneur. Puisque je vous l'ai dit dans 1 Thessaloniciens 1, versets 9 et 10, nous sommes tous appelés à servir. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien se mettre dans la tête. Il n'y a pas qu'une élite qui est appelée à servir. Tous sont appelés à servir. Des services différents. Regardez les sacrificateurs. Au départ, quand vous lisez Exode 19, Dieu avait dit que tout son peuple, tout le peuple d'Israël serait un peuple de sacrificateurs, une nation sainte. C'est répété dans Pierre le répète, dans Pierre 2, n'est-ce pas? Et puis ça n'a pas pu se produire. Quand Moïse redescend de la montagne, le veau d'or a été construit et Moïse s'écrit « À moi ceux qui sont pour l'Éternel !» Mais il n'y a que les Lévites qui viennent. Et dans les Lévites, il y a les sacrificateurs. Et c'est eux qui vont servir. Mais aujourd'hui, on a le même schéma. Aujourd'hui, nous avons... Dieu avait prévu, selon Pierre, que nous soyons un royaume de sacrificateurs, tous les chrétiens. Malheureusement, il y a des chrétiens qui veulent mener leur propre vie, qui veulent faire ce qui leur plaît. Alors, ce ne sont pas tous qui sont appelés à être sacrificateurs et encore moins appelés à régner, un royaume de sacrificateurs. Donc, c'est pour ça qu'il y a des vainqueurs et des non-vainqueurs. C'est pour ça que, selon le schéma qu'on a vu avant, il y a des croyants et des disciples. Il y a des enfants et des fils. On n'est pas tous fils. Le fils, c'est celui qui est héritier. Et on n'a pas tous l'héritage. La Bible est claire, il y aura des Abraham, des Noé, et puis il y aura des Lot. Des Lot qui seront sauvés au travers du feu. La Bible montre cela sans cesse. Dans Apocalypse 2 et 3, vous avez 7 fois écrit à celui qui vaincra. Donc il y a le vainqueur et le non-vainqueur. Apocalypse 21, verset 6, et il parle, verset 6 et verset 7. Il parle de ces deux catégories. Donc, ça c'est clair. C'est très clair dans la parole. Mais parmi les Lévites, vous voyez que, regardez comme c'est merveilleux. Si vous lisez Nombre chapitre 3 et 4, vous voyez ce que les Lévites portaient. Vous voyez à quel âge ils pouvaient servir. On ne peut pas servir tout de suite. Vous vous rappelez le schéma tout à l'heure? Il y a d'abord d'autres étapes avant vous. Et c'est pour ça qu'il était écrit que lorsqu'un Lévite servirait, il fallait qu'il serve entre 30 et 50 ans. Il ne pouvait pas servir avant 30 ans. C'est pour ça que Jésus n'a pas pu commencer le ministère avant 30 ans. Ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible. Les meilleures années de notre vie. N'oubliez pas qu'à l'époque, on vivait jusque vers 55-60 ans, hein, en moyenne. On ne vivait pas aussi longtemps que maintenant. Donc, les meilleures années de la vie des Lévites étaient données pour Dieu. Est-ce qu'on est prêt à donner au Seigneur les meilleures années de notre vie? Ou est-ce qu'on est prêt à lui donner nos années de mourant? Vous comprenez ce que je veux dire? Tout ça, ça nous parle, ces images de l'Ancien Testament. Et les Lévites? Ben, les Lévites, ils étaient au service des sacrificateurs. Qui est-ce qui portait les matériaux du tabernacle? C'était les Lévites. Les sacrificateurs, ils ne portaient rien. Ils ne portaient pas les sacrificateurs. C'était les Lévites. Nous devons apprendre, justement, à fonctionner. Le sacrificateur, c'est l'image du vainqueur dans la Bible. Et c'est une très belle image des vainqueurs. Et les sacrificateurs, eh bien, ils travaillaient, ils étaient complètement libres pour Dieu, et il fallait qu'ils soient libres, complètement libres dans leurs tâches. Ils ne pouvaient pas faire autre chose. Ils ne gardaient pas les portes du tabernacle, du temple surtout. Non, ce n'était pas possible. Bien. Donc, vous voyez qu'il y a, des critères pour servir dans l'Église. Je voudrais qu'on regarde rapidement ça. Alors, la Bible parle de deux domaines. Elle parle de l'élection et elle parle de la vocation. Commençons par, ça va vite là, hein, une seule flèche. L'élection, il y a deux, je dirais que dans l'élection, il y a deux points. La première partie de l'élection, c'est l'appel personnel. Il faut être né de nouveau. C'est la nouvelle naissance. L'élection commence par un appel personnel. Chacun est appelé au salut. Et je voudrais vous montrer ces cinq étapes tout simplement au travers de Timothée. Timothée est un très bel exemple et on voit ces étapes dans sa vie. Par exemple, l'appel au salut, là, le premier point ici, c'est 1 Timothée 6, verset 12. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Voilà, ça c'était la nouvelle naissance de Timothée. Quand vous lisez dans 1 Timothée 1, verset 2, à Timothée, mon enfant légitime en la foi, c'est pas très bien traduit. Il faut traduire exactement à Timothée, mon enfant véritable, mon véritable enfant dans la foi. Oui, ça veut dire qu'il est né de nouveau avec Paul, tout simplement. Ça parle encore de sa nouvelle naissance ici. Il va le répéter plus loin. Il dira dans 1 Corinthiens 4, 17, pour cela je vous ai envoyé Timothée qui est mon enfant bien-aimé. Donc, ça c'est la première étape dans la vie chrétienne où si on veut servir, il faut d'abord être né de nouveau. C'est l'appel au salut. Puis, dans l'élection, il y a une deuxième étape. Et là, ce n'est pas personnel, c'est au niveau de l'Église. Et là, c'est en rapport avec les baptêmes. Baptême dans l'eau, baptême dans l'esprit, etc. Je dirais que là, à partir de là, eh bien, c'est au niveau de l'Église, on reçoit une formation générale dans l'Église pour pouvoir servir ensuite. Où on le voit dans la vie de Timothée, je vous donne trois versets, Actes 14, versets 6 et 7, Paul et Barnabas ayant eu connaissance, se réfugièrent dans les villes de la Lycaonie, à Lystre. Lystre, c'était la ville de Timothée. Timothée était de Lystre. Et dans la contrée d'alentour, ils y annoncèrent la bonne nouvelle. Ce verset nous parle donc de Paul, là. On voit la nouvelle naissance, il a annoncé la bonne nouvelle. Certainement que c'est là que Timothée a donné sa vie à Christ. Et certainement que c'est là aussi qu'il a été baptisé dans l'eau. Ça se faisait rapidement. Hein. Verset 21 du même chapitre. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et Antioche. Vous voyez, Paul est passé à l'aller à Lystre pour ce voyage qui a duré 2 ans. Et au retour, eh bien, il s'arrête encore à Lystre. Et là, eh bien, il revoit encore Timothée, et on ne sait pas s'il a été baptisé dans l'eau à l'aller ou au retour, mais en tous les cas, le baptême dans l'eau, le baptême dans l'esprit, s'est arrivé rapidement pendant cette période où Barnabas et Paul ont fait ce voyage. Puis nous arrivons maintenant au troisième point, et là, c'est plus l'élection, c'est la vocation. Alors, il y a trois points dans la vocation. D'abord, il y a un point qui est très personnel. Je dirais qu'il faut avoir reçu, on est tous appelés à servir, mais il faut avoir reçu un appel personnel. C'est pas quelqu'un qui va te dire « toi, tu es prophète ». Ça peut être une confirmation, ça. Mais il faut que tu aies reçu personnellement ce à quoi tu es appelé dans l'assemblée locale. Pour Timothée, c'est Acte 16, versets 1 et 2. Il se rendit ensuite à Derbe, c'est Paul, hein, à Lystre, donc il y a Timothée. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive, fidèle et d'un père grec. Vous avez remarqué là, c'est le mot disciple qui est employé. Ce n'est pas le mot croyant. C'est le mot disciple. Le verset 2. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Voilà. Donc, il y a l'appel personnel. Vous allez voir, on va aller plus loin. Et là, il y a un bon témoignage. Timothée est un témoin. Et donc, un témoin, on sait ce que ça représente. On sait qu'on ne peut pas être un témoin, on ne peut pas évangéliser si on n'est pas un témoin. Ce n'est pas possible. Et ensuite, c'est bien, le point suivant, c'est au niveau de l'Église, il faut qu'il y ait confirmation de cet appel. C'est dommage lorsqu'on voit aujourd'hui dans différents endroits des ministères qui s'autoproclament. Ils n'ont pas d'assemblée locale. Ils disent, moi je suis ceci, moi cela. Je dis souvent, si un ministère vient demander de lui, quelle est son assemblée locale? S'il n'a pas l'assemblée locale, ne le recevez pas comme ministère. C'est très très important de comprendre ça. Ce n'est pas parce qu'on a reçu un don spirituel ou plusieurs dons spirituels qu'on peut tout d'un coup servir le Seigneur. Il faut qu'il y ait une confirmation. Les ministères sont là pour ça. Regardez Galates 2. Nous voyons que Pierre, Jacques et Jean vont donner la main d'association à Paul et Barnabas. Et ils vont reconnaître leur ministère apostolique. Alors la confirmation, là, à partir de là, vous voyez, là, la formation générale se fait, elle va se faire toute la vie, mais à partir du moment où le ministère est confirmé, il y a une formation spécifique qui se met en place dans la vie de la personne en rapport avec le service auquel elle est appelée. Là, il y a une formation spécifique. Et il ne faut pas faire l'inverse. Hein. Ça, c'est important. Bon, je vais aller vite. Alors, confirmation, acte 16, 3. Paul voulut l'emmener avec lui et l'ayant pris, le circoncis à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Vous voyez, Paul voulut l'emmener avec lui. Là, il y a quelque chose de spécifique qui est en train de se mettre en place. 1 Timothée 4, 14. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Si vous lisez seulement le livre des Actes, l'acte 16, 3, vous avez l'impression que Paul passe à Lystre. Puis il dit, tiens, j'aimerais bien l'emmener avec moi, lui. Et puis hop, il partit avec Paul. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Timothée nous donne l'explication. Il y a une réunion des Anciens. Les anciens ont prié et ils ont dit, oui, tu peux prendre avec toi Timothée. Allons un petit peu plus loin. 2 Timothée 1, 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Ce n'est pas seulement les anciens de Lystre qui ont prié pour Timothée, mais il y avait Paul. Et quand Paul a prié pour Timothée, eh bien c'est là que le don de prophétie est arrivé. 1 Timothée 1, 18, la recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Oui, les prophéties qui ont été données par les anciens, et Paul était présent. Acte 16, verset 6, ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Paul voyage avec Timothée. Là, c'est la formation. Il y a un travail de formation qui se fait. Cette formation elle continue au chapitre 17, elle continue par exemple au chapitre 17, elle va continuer au verset 15 à Athènes, puis dans 1 Thessaloniciens 3 verset 1 et 2 la formation continue à Thessalonique, ils vont plus loin et on les retrouve dans acte 18, 5 à Thessalonique. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés, de la Macédoine. Ils arrivent de Thessalonique. Paul a laissé Timothée avec un autre frère à un endroit, à Thessalonique. Vous voyez, le travail, retenez bien ce qu'on a lu tout à l'heure dans Lévitique 19, on va conclure avec ça. Vous voyez, Paul fait un travail de formation dans le voyage, puis à un moment donné, il dit, maintenant que tu es suffisamment formé pour rester avec un autre frère à tel endroit, pour faire un travail, pas tout seul encore, hein, mais tu peux, avec un autre frère, tu vas être utilisé dans ces différents endroits. Et puis, on voit qu'ensuite, eh bien, il va continuer à être formé. Et nous lisons Philippiens 2, verset 22. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi comme un enfant avec son père. Paul écrit ça à Rome, lorsqu'il est en résidence surveillée. Mais déjà, Timothée, là, est dans l'étape numéro 5, la dernière. Alors, quelle est cette dernière étape? Eh bien, cette fois, c'est au travers de l'Église. Toujours l'Église, c'est-à-dire que le ministère a été confirmé ici, donc il faut une formation spécifique dans ce ministère. Et puis, il est reconnu ensuite. Il est reconnu dans le ministère, là, il va pouvoir, je dirais, travailler seul dans le ministère. On voit ce service reconnu chez Timothée dans 1 Thessaloniciens 1:1, Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'on lit au chapitre 2, verset 6? Nous aurions pu, hein, nous, c'est Timothée inclus, c'est pas seulement Paul, c'est Silas et Timothée, nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous imposer avec autorité comme apôtre de Christ. Là, Timothée est apôtre. C'est écrit. Nous, c'est Paul, Sylvain et Timothée. Donc là, on voit le ministère apostolique, et puis on voit que ce ministère, eh bien, il va se développer. 1 Corinthiens 4, 17, ça se passe à Éphèse. Et puis Paul va écrire à Timothée, à la fin de sa vie, la première et la deuxième, à Timothée. Paul et Timothée est à Éphèse. Là, ce n'est plus un jeune, n'est-ce pas, mais c'est quelqu'un qui est capable de régler les problèmes. Il est responsable de l'église d'Éphèse. Qu'est-ce qu'il était? On ne peut pas le dire exactement. Fait l'œuvre d'un évangéliste, c'est écrit dans Timothée. Donc, il travaillait comme apôtre, mais vous savez, l'apôtre est toujours un second ministère, donc il travaillait aussi comme évangéliste. Peut-être que pendant un temps, il a été le dirigeant de l'église d'Éphèse, certainement en tant qu'apôtre. Et on voit que quand il est question de l'église d'Éphèse, dans 1 de Timothée, c'est une église qui va mal. Et Paul et Timothée sont capables de s'occuper de problèmes graves parce qu'il a ce ministère apostolique, justement. Alors, je termine. Voilà, et nous avons fini pour ce matin. Je veux reprendre juste Lévitique 19. Gardez bien, il y a quelque chose encore là sur ce. Oui, bon, formation générale, formation spécifique, très bien. Bon, d'accord, on y va, allez. Vous voyez, vous pouvez replacer les grandes étapes de la vie dans ce schéma. Et puis, il y a encore quelque chose? Ah, oui, c'est en rapport avec... Voilà. Ah oui, alors c'est ça qui m'intéressait. Je vais terminer avec ça. Regardez bien. Lévitique 19, verset 23. Quand vous serez entrés dans le pays, ça c'est l'entrée dans le corps de Christ, l'Église, et que vous y aurez planté toutes sortes d'arbres fruitiers. Ça, c'est planté, c'est en rapport avec des nouveaux convertis qui sont appelés, bien sûr, à porter du fruit. Vous en regarderez les fruits comme incirconcis pendant 3 ans. Ils seront pour vous incirconcis, on n'en mangera pas de 1 à 3 ans. Ils sont jeunes, c'est pour ça que ces fruits jeunes, on ne peut pas les manger, on ne peut pas servir le Seigneur à la nouvelle naissance. Même Paul, il a dû partir 3 ans en Arabie, n'est-ce pas? Donc, c'est en rapport avec ces trois premiers points, 1, 2, 3, vous voyez, pendant 3 ans, jusqu'à même l'appel personnel, on ne peut pas encore, c'est un appel qu'on a reçu personnellement, il faut qu'il soit confirmé, on ne peut pas manger des fruits de cette manière. Verset 24, la quatrième année, tous les fruits seront consacrés à l'Éternel au milieu des réjouissances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la quatrième année, eh bien, ça se passe au milieu des réjouissances. Il y a d'autres ministères. Il y a tout le monde qui est là et qui éprouve le ministère pour voir si les fruits sont bons, s'il a encore besoin de formation ou si ça suffit. Et ça, c'est la confirmation de la quatrième année. Et puis, le verset 25, la cinquième année, vous mangerez les fruits et vous continuerez à les récolter, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous voyez, la cinquième année, c'est bon. La cinquième année, ça y est, le ministère est prêt à fonctionner. Le ministère de Timothée est prêt à travailler pleinement à Éphèse. Alléluia. Trop souvent, des étapes ne sont pas franchies. Et alors, après, on s'étonne que certaines choses n'aillent pas au niveau des ministères. Je ne parle pas seulement des pasteurs. Hein. Vous voyez, je vous ai noté tout ça ici. Hein. Quand on est appelé au salut, c'est en rapport avec l'évangéliste. Et puis la confirmation par le baptême, le pasteur. Et puis il faut une révélation pour servir, c'est le côté prophétique. Puis la formation dans le ministère, le docteur. Et puis ça se termine avec l'apôtre. C'est une image que je vous donne. Alors, vous comprenez bien l'importance d'être bien formé. C'est très important. Et la conclusion, il y a trois manières d'être formé. Votre culte personnel. Et ça, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Et c'est toute la journée. C'est pas seulement quand vous lisez votre Bible, le moment où vous lisez votre Bible, ou le moment où vous priez. Puisque vous êtes appelé à prier sans cesse. C'est votre culte personnel. On ne recevra jamais autant que dans notre culte personnel. Deuxièmement, au travers de la vie, de la prière, bien sûr. Deuxièmement, formation de disciples. Et la formation de disciples, il y a la formation générale, elle se fait dans l'église locale. C'est là que doit se créer ce qu'on appelle aujourd'hui l'école ludique. L'école ludique est dans l'assemblée locale. On ne déracine pas les chrétiens. J'insiste sur ce point. Et deuxièmement, la formation spécifique. Et là, elle se fait avec les ministères de passage. Elle se fait au travers des voyages. Elle se fait au travers des lettres. Ça, c'est la troisième manière d'être formé. Culte personnel, assemblée locale et ministère. C'est ainsi qu'on sera formé. Ce qui est le plus important, ce n'est pas ce que j'ai appris, ce n'est pas ce que vous avez appris ce matin, ce n'est pas ce que vous avez appris hier ou avant-hier, non. Ce qui est le plus important, c'est ce que je suis maintenant. Où est-ce que j'en suis maintenant? C'est ça qui est le plus important. Amen. Gloire à Dieu. Eh bien, je vous laisse du travail à mâcher là. Hein. Vous avez le temps de réfléchir à tout ça. Et nous terminerons mercredi soir. Et mercredi soir, eh bien, nous verrons un dernier point très important en rapport avec l'enlèvement des vainqueurs. Seigneur, nous voulons te louer encore ce matin.